Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Rapport sévère du comité de l'ONU sur les droits de l'enfance contre le Vatican. L'Église est sommée de relever immédiatement de ses fonctions toute personne suspectée d'abus sexuels. Des mots durs. Nous entendrons la réponse de Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève. Audience générale, le pape François est revenu sur le sacrement de l'Eucharistie et sur l'importance d'aller à la messe le dimanche. Retour jeudi d'un ambassadeur d'Égypte près le Saint-Siège. Il présentera ses lettres de créance au pape François. Les évêques suisses ont rendu publiques les réponses à leurs questionnaires sur la famille, une matière à nourrir la réflexion des pères synodaux qui se retrouveront à Rome en octobre prochain pour traiter de la famille. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le Vatican est donc sommé de relever immédiatement de ses fonctions toute personne suspectée d'abus sexuels et de déférer leur cas aux autorités judiciaires compétentes à des fins d'enquête et de poursuite. Le rapport du comité de l'ONU sur les droits de l'enfance a été publié ce mercredi matin. Il accuse directement le Saint-Siège de ne pas en avoir fait assez et de violer la Convention sur les droits de l'enfant. Les mots sont donc très durs, mais ce rapport fait l'impasse sur la politique de tolérance zéro appliquée par Benoît XVI. Il semble aussi ignorer ou ne pas tenir compte du travail accompli par la Congrégation pour la doctrine de la foi et de la rigueur appliquée par l'ancien promoteur de justice, Mgr Charles Scicluna. À la mi-janvier, ce même comité, constitué de 18 experts indépendants des droits de l'homme de divers pays, avait auditionné les représentants du Vatican et avait demandé au Saint-Siège de rendre accessibles tous ces dossiers concernant les auteurs des abus et ceux qui ont couvert ces crimes. Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève, a vivement réagi à ce texte.
Les langages dans les textes qui regarde le Saint-Siège est un peu dur et quelquefois pas correct. Alors, il faut, avec patience, répondre à toutes les affirmations qui sont contenues dans ces reports et préparer une information adéquate de manière que l'objectif qu'on veut atteindre, la protection des enfants, puisse être vraiment satisfait.
Et comment répondez-vous précisément, point par point, aux accusations de l'ONU?
Les rapports demandent au Saint-Siège de changer des principes, des enseignements qui ne sont pas négociables, comme la protection de la vie. La même Convention sur les droits de l'enfant, dans son préambule, parle de la protection de l'enfant avant et après sa naissance. Mais si on va le tuer, il n'y a pas d'espace pour l'application des droits de l'homme. Alors, avec toute l'attention et le respect possible, on doit vraiment définir mieux et expliquer avec précision, pas seulement la défense et la raison des principes que les Saint-Siège défendent, qui sont les principes et les valeurs qui constituent le vrai bien commun de la famille humaine, mais aussi mettre en évidence que les Saint-Siège, pour sa part, et les conférences épiscopales dans leur domaine ont pris des décisions concrètes qui s'appliquent depuis déjà longtemps, qui sont la volonté claire de prévenir les abus sexuels et de compenser les victimes, d'aider les victimes de ces abus à se réintégrer dans la société, dans la famille, d'une manière normale. Et c'est un travail qui reste à continuer. Et il y a toute la bonne volonté de le faire. Et on espère que ça soit apprécié même par ceux qui ont une philosophie bien différente de la tradition catholique.
L'ONU avait pourtant dit que le Vatican avait pris plus de dispositions que d'autres États pour protéger les mineurs. Qu'est-ce qui a changé?
C'est une impression. Peut-être une bonne partie du texte était déjà formulée et on a ajouté quelques paragraphes pour prendre en considération les échanges qui sont parvenus entre le comité et la délégation du Saint-Siège. mais de toute manière, il faudra, avec compétence et avec l'évidence disponible, répondre d'une manière efficace au comité pour expliquer que vraiment la réalité n'est pas complètement ce que le comité même a présenté dans son rapport.
Monseigneur Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève, il était interrogé par Audrey Radondi. Et le Saint-Siège a réagi également via un communiqué. Selon les procédures particulières prévues pour les signataires de la Convention, le Saint-Siège prend acte des observations conclusives sur les rapports respectifs, observations qui seront soumises à une étude et un examen minutieux. Le Saint-Siège regrette toutefois de constater dans certains points des observations conclusives une tentative d'interférer dans l'enseignement de l'Église catholique sur la dignité de la personne humaine et dans l'exercice de la liberté religieuse. Enfin, le Saint-Siège réitère son engagement à défendre et protéger les droits de l'enfant en accord avec les principes promus par la Convention sur les droits de l'enfant et selon les valeurs morales et religieuses offertes par la doctrine catholique. Voilà, pour en savoir plus sur ce dossier, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va. Direction maintenant la place Saint-Pierre pour l'audience générale de ce mercredi matin. La pluie qui s'abat sans presque discontinuer sur Rome depuis plusieurs jours n'a pas freiné les pèlerins venus écouter le pape. François poursuivit ce mercredi matin devant une foule de parapluies son cycle de catéchèses consacré au sacrement de l'Église. Il a traité cette fois de l'Eucharistie et de l'importance d'aller à la messe le dimanche. Jean-Baptiste Cocagne.
Tout chemin authentique de foi, de communion et de témoignage jaillit de ce sacrement. Le pape est très clair. Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, nous participons au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, a-t-il expliqué. Chers amis, a-t-il poursuivi, demandons au Seigneur que ce sacrement continue à maintenir vivante sa présence dans l'Église et à modeler nos communautés dans la charité et la communion selon le cœur de Dieu. Le pape a également tenu à rappeler que le dimanche est très important pour les chrétiens, qu'il est essentiel de participer à la messe, non seulement pour prier, mais également pour recevoir la communion. Et d'ajouter, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le don qu'il nous a fait de l'Eucharistie, un don si grand, et c'est pour cela qu'il est important de se rendre à la messe le dimanche pour recevoir ce pain qui est le corps de Jésus-Christ et qui nous sauve, nous pardonne. C'est donc bien de faire cela tous les dimanches parce que c'est le jour de la résurrection et c'est donc un jour important pour nous où nous sentons notre appartenance à l'Église et au Christ.
Jean-Baptiste Cocagne est présent à cette audience générale, les évêques de la conférence épiscopale francophone pour les traductions liturgiques qui en ont profité pour remettre au pape François la nouvelle Bible officielle en français. Bible aux armes du Vatican est remis en main propre par Mgr Aubertin, l'archevêque de Tours et président de la conférence. Avec lui, des évêques venus de France, du Canada, de Suisse, de Belgique ou encore d'Afrique du Nord. Il a fallu 17 ans de travail avant que ce texte ne soit approuvé par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que par tous les évêques francophones. Cette nouvelle traduction ne devrait entrer en vigueur dans les lectionnaires que courent en 2014, et ce n'est pas avant 2015 que le nouveau missel sera approuvé puis publié. Toujours au Vatican, ce jeudi matin, le pape François recevra les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République d'Égypte près le Saint-Siège. Depuis près d'un an et demi, le gouvernement du Caire n'était représenté au Vatican que par son chargé d'affaires. Le précédent ambassadeur, Madame Lamia Ali Hamada Bekemar, avait quitté ses fonctions en 2012. L'année précédente, les relations entre le Saint-Siège et l'Égypte avaient connu un refroidissement lors des événements qui conduisirent à la chute de l'ex-président Hosni Moubarak. Antonino Gallofaro.
Ces dernières années, les relations entre l'Égypte et le Saint-Siège ont été chahutées. Les bouleversements qu'a connus l'Égypte ne sont pas restés sans conséquence. Dans la nuit du nouvel an 2011, une bombe explose devant une église copte à Alexandrie, tuant 23 personnes. Quelques jours plus tard, lors de ses vœux au corps diplomatique, Benoît XVI revient sur cet attentat et réclame que les chrétiens soient protégés correctement. Cette demande est mal perçue au Caire, qui qualifie les propos du pape d'ingérence inacceptable. Le gouvernement égyptien décide en conséquence de rappeler pour consultation son ambassadeur. Cet épisode affecte également les échanges entre l'université Al-Azhar, référence dans le sunnisme, et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Les liens sont rompus. Mais la crise diplomatique semble surpassée quand en février 2011, quelques jours après la chute d'Hosni Moubarak, les nouvelles autorités égyptiennes décident de renvoyer leur ambassadeur à Rome. Cependant, l'évolution de la révolution égyptienne et les soubresauts politiques que connaît le pays ont pour conséquence le départ de Lamia Ali Hamada Mekemar, l'ambassadeur en poste depuis 2008. Depuis, aucun nouvel ambassadeur n'a été nommé. Le retour d'une certaine stabilité en Égypte et le réchauffement des relations entre Al-Azhar et le Vatican peuvent aussi éclairer sur le retour d'un représentant permanent de l'Égypte auprès du Saint-Siège.
Antonino Gallofaro. Disparition mardi à Rome d'une grande figure intellectuelle catholique, le père jésuite Michele Simone. Il avait 70 ans. Pendant de nombreuses années, il a signé d'innombrables analyses politiques dans la revue jésuite Civiltà Cattolica. Il a notamment beaucoup réfléchi sur la présence et l'engagement des catholiques en politique, n'hésitant pas à livrer des réflexions parfois dérangeantes. Il intervenait souvent sur l'antenne de Radio Vatican pour commenter les faits les plus significatifs de la vie politique italienne. Les évêques suisses ont pris connaissance des réponses des 25 000 personnes qui ont rempli le formulaire que l'Église avait envoyé à tous les catholiques sur la famille. Parmi ces personnes, nombreux sont les Suisses alémaniques et les catholiques les plus pratiquants. Ils sont 90% à vouloir que l'Église reconnaisse et bénisse les couples de divorcés remariés et 60% à être en faveur d'une reconnaissance et d'une bénédiction par l'Église des couples homosexuels. Les réponses révèlent aussi un sentiment d'insatisfaction par rapport à la préparation au mariage. Mgr Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, revient sur les enseignements que les évêques ont tirés de ce questionnaire à quelques mois du synode sur la famille.
Beaucoup de gens n'attendent vraiment plus tellement de l'Église qu'elle se mène dans leur vie privée de manière générale, quant à ce qu'ils font, et surtout sur des questions touchant à la vie de leur couple, mettons, ou à leur vie sexuelle de manière plus large. Et quand on entend, je pense à des visites pastorales, il n'est pas rare d'entendre des personnes âgées se plaindre. Mais les personnes âgées, c'est quand même une bonne partie des gens qui vont à l'Église, et ça, c'est un des phénomènes à prendre en considération dans les réponses que nous avons reçues. Beaucoup de personnes âgées disent « Autrefois, quand j'étais jeune, on nous imposait des choses, maintenant, on en a été libéré. » On l'entend souvent, c'est quelque chose qui frappe évidemment au moins les jeunes, parce qu'ils ne se sont jamais sentis imposer ces choses. Et du coup, parmi les jeunes, les rares qui s'intéressent encore à ce genre de questions, c'est plutôt des gens qui redécouvrent la foi, qui éventuellement sont en gros des nouveaux convertis, et qui ont plus d'intérêt par rapport à l'enseignement de l'Église en ces matières. Je crois qu'il faudrait situer les choses de manière plus profonde dans la vie chrétienne. Et à mon sens, ce qui est le signe le plus prometteur pour l'avenir, c'est un grand nombre, enfin un nombre pas immense, mais quand même pas du tout négligeable, d'adultes qui participent à des cours de formation chrétienne pour adultes, qui désirent connaître mieux la foi. Et c'est sur cette base-là qu'ils peuvent aussi et en même temps découvrir mieux la signification de la morale.
Et donc, au regard de ces premiers résultats, quels seront selon vous les objectifs pour le prochain synode ?
C'est l'occasion d'essayer d'expliquer de manière positive que ce que nous proposons vaut la peine d'être vécu et est beau à des gens qui ne s'attendent pas à ce que ça puisse les concerner de manière positive. Et puis, je dirais qu'on peut aussi situer ça de manière plus large. Je pense à un groupe de couples qui précisément étudient la théologie du corps de Jean-Paul II et que j'ai rencontré. Et ils me disaient, parce qu'ils ont pris l'initiative de parler de ce synode, ils se mettent à parler entre eux et avec moi aussi, en disant, dans le fond, nous qui essayons de vivre notre vie familiale comme l'enseigne l'Église sur tous les points, nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide de la prière en famille et des sacrements. Et ils me disaient aussi, mais il semble que la plupart des gens ne pensent pas à ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire aussi, que en gros, ce que l'Église annonce dans ce domaine, ce n'est pas seulement une manière d'ordonner la société qui voudrait s'imposer à tous, mais quelque chose qui est annoncé à des chrétiens, qui reçoivent aussi l'aide que propose l'Église en matière de foi et de sacrements. Mais là encore, j'ai vu, même hier, en parlant avec des journalistes, si je leur dis cela, apparemment, ça leur glisse complètement dessus et ils passent à des considérations sociologiques. Donc il faudrait essayer d'annoncer cela et je vois bien que c'est par exemple, c'est ce que fait le pape aussi, dans l'exhortation Evangelii Gaudium. Mais quand des gens citent, disons, en public, ces textes ne sont pas tellement ces arguments-là, connaître le Christ, le rencontrer, même avec l'aide des sacrements, ce ne sont pas les points qui sont retenus. Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre l'accent là-dessus, plutôt que de simplement retenir des statistiques ? Je crois que là, il y a un certain défi.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. En Irlande, un nouveau programme éducatif établi sous l'égide de l'Église catholique va mettre en place l'enseignement des autres religions pour les élèves catholiques du pays. La mesure rompt brutalement avec la tradition dans les 90% d'écoles primaires où les cours de religion concernent exclusivement la foi catholique. Les objectifs de ce nouveau programme sont de préparer les enfants au contact des chrétiens d'autres confessions et aux personnes d'autres religions en affirmant son identité catholique tout en respectant la foi d'autrui. Le futur de la communication est responsable. C'était le thème d'une conférence qui s'est tenue à Rome à quelques pas du Vatican. Organisée sous l'égide de la Fondation pour l'évangélisation par les médias, cette rencontre s'est concentrée sur le message du pape François à l'occasion de la journée des communications sociales. Un message dans lequel le Saint-Père livre sa vision de la communication comme devant être au service d'une authentique culture de la rencontre. Parmi les participants, les responsables d'Aletheia. Lancé il y a près de 2 ans, le réseau d'information Aletheia se propose d'offrir aux internautes un regard chrétien sur l'actualité selon une ligne éditoriale bien précise, celle de l'écoute. Nous en parlons avec Jesús Colina, le président et directeur éditorial d'Aletheia.
Alors notre ligne éditoriale, il commence par l'écoute des surfeurs, des gens qui sont sur les réseaux, sur la toile, et qui cherchent. Alors, on se sert des nouvelles technologies, des softwares qui font de la recherche des données pour savoir quels sont, par exemple, les plus grands nombres de recherches aujourd'hui sur Internet. Et comment ces sujets, ces recherches, ils peuvent toucher la vie des personnes pour pouvoir donner une réponse, un approfondissement. On l'appelle techniquement le web listening, l'écoute. On veut se mettre à l'écoute. On se met à l'écoute dans les moteurs de recherche, à l'écoute à Twitter. Twitter, c'est le meilleur système qui existe aujourd'hui pour comprendre ce qu'on appelle les trending topics, les sujets d'actualité. Il y a aussi les réseaux sociaux comme Facebook qui permet, surtout dans les pages publiques, de comprendre qu'est-ce qui s'intéresse le plus les gens.
Donc vous, concrètement, vous offrez, vous venez de le dire, un regard chrétien sur l'actualité. Qu'est-ce que ça implique de la part de vos journalistes, de vos contributeurs, d'offrir un regard chrétien sur l'actualité? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Principalement 2 choses. Je crois que la grande différence entre un journaliste chrétien et un autre journaliste, pour moi, ce n'est pas la capacité professionnelle, parce qu'elle est la même, ce n'est pas l'éthique, parce qu'on a tous les mêmes principes professionnels et éthiques. Quelle est la grande différence? La grande différence pour moi, c'est la même qui fait la différence pour un ouvrier, pour un médecin, pour une mère au foyer qui sont chrétiens. Ça veut dire les commandements de l'amour. Nous, il faut qu'on aime les ennemis. L'amour de l'ennemi crée une conversation. Si moi j'attaque, si je condamne, je ne peux pas créer une conversation avec celui qui ne pense pas comme moi. En deuxième lieu, je dirais que les regards chrétiens, il permet de voir le monde à plein couleur. Parfois, dans le monde de la communication, de l'information, on voit le monde en blanc et noir. Et un peu concentré sur des questions matérielles, qui parfois c'est des souffrances aussi, des questions liées à l'économie, à la politique. Les regards chrétiens, ils cachent rien de tout ça, mais ils donnent en plus une couleur, qui est celui de la transcendance, et qui nous permet de nous rappeler que l'homme, c'est pas un vote, c'est pas un numéro de carte de crédit. L'homme, c'est un être avec une histoire sacrée appelée à l'éternité.
On voit aujourd'hui la floraison des médias chrétiens. Chaque média essaie de se spécifier, de se valoriser par rapport aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au lieu de tendre vers le même but, de créer vraiment une situation de compétition, voire même de vraie rivalité entre médias chrétiens?
Alors, la première réponse qui me vient dans la tête, c'est que la rivalité, ça pourrait être même positive. Et la compétition, ça veut dire qu'il y a une réponse à une demande. Et c'est bien aussi de répondre avec des différents angles. C'est bien aussi de pouvoir offrir au Burger King, au McDonald's. Mais deuxièmement, il ne faut pas oublier l'esprit qu'il doit nous animer. C'est un esprit finalement d'évangélisation, de partager la richesse la plus belle qu'on a reçue. Alors, même s'il peut y avoir des différences et même une compétition, il ne faut pas oublier qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous au service de la, du même femme, du même homme, de la même personne, et qu'alors il faut créer un réseau, il faut créer une toile, et la nouvelle technologie, elle est géniale pour ça.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. C'est ainsi que se termine ce magazine. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.